Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 12 juillet 2025. Bienvenue dans votre programme en français. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Si jamais vous êtes à Melbourne, sachez que ce week-end, nous célébrons Bastille Day. Il y a un grand festival francophone au Queen Victoria Market, samedi et dimanche. Nous allons passer une heure ensemble, on vient de le dire. C'est le programme en français sur Radio SBS. Et comme tous les samedis, on commence avec la rétrospective. C'est la rétrospective du jour et on fait un bond de 27 ans en arrière, une soirée dont je suis sûre tous les Français qui nous écoutent se souviennent. C'était le 12 juillet 1998, vous vous souvenez? La France sacrée championne du monde de football pour la première fois de son histoire. C'était à Saint-Denis, au Stade de France. L'équipe de France de football rentrait dans l'histoire grâce à sa victoire éclatante et 1, et 2, et 3, 0 contre le Brésil. Récit de cette soirée inoubliable par François Vantôme.
Les heures précédant le match France-Brésil, le Mondial 98, sont rythmées par l'incertitude et la confiance. À 18h, le car transportant les 22 joueurs français quitte Clairefontaine pour rejoindre le Stade de France sous les acclamations d'une foule en liesse. Pendant ce temps, une question brûle toutes les lèvres. Ronaldo, la star brésilienne, jouera-t-il ? Les médias reçoivent la feuille de match sans le nom du prodige de 21 ans, semant le doute et l'agitation. Les rumeurs courent sur les raisons de son absence et l'on apprend qu'une ambulance est arrivée au centre d'entraînement des Brésiliens dans l'après-midi. Ronaldo aurait fait un malaise, mais il est finalement de retour au stade une heure avant le match. Les joueurs français, quant à eux, affichent une confiance à toute épreuve. Dans le tunnel menant au terrain, les Bleus observent un Ronaldo pâle et sentent que la victoire est à portée de main. Et voilà, le coup d'envoi est donné. Les Français s'élancent rapidement et prennent le contrôle du milieu de terrain. Oh là là, regardez ces mouvements fluides. Le Brésil tente de répondre mais manque d'efficacité dans ses attaques. Attention, voilà la 27e minute. C'est Zidane qui se démarque dans la surface. Le corner est donné par Lionel Petit et c'est une tête piquée. Goal ! Les Français ouvrent le score avec brio. Quelle performance de Zizou ! Les Bleus mènent 1-0. Quelle ambiance ! Avant la fin de la première mi-temps, les Français ne relâchent pas la pression. Corner. Cette fois, c'est Djorkaeff qui s'est prêt à le tirer. Quel moment crucial. Il est bon ce corner. Et Zidane marque encore de la tête et goal ! Il a inscrit le deuxième but pour la France. Quelle démonstration de force de la part de l'équipe de France. En seconde période, le sélectionneur brésilien tente de renforcer son attaque en faisant entrer Denilson à la place de Leonardo. Malgré quelques occasions, dont une frappe de Ronaldo stoppée par Fabian Barthez, les Brésiliens n'arrivent pas à marquer. L'exclusion de Marcel Desailly à la 67e ne change pas la donne. Aimé Jacquet réorganise son équipe en faisant entrer Patrick Vieira et en déplaçant Emmanuel Petit en arrière central. En supériorité numérique, les Brésiliens multiplient les offensives sans parvenir à tromper la défense française. Nous entrons dans les dernières minutes de la rencontre. Les Français continuent de pousser et voilà qu'Emmanuel Petit se retrouve lancé en contre-attaque. Quelle vitesse ! Il file vers le but adverse. Il tire et goal ! 3-0 ! Quelle action incroyable pour les Bleus qui marquent à la dernière minute ! Lorsque l'arbitre siffle la fin du match et que la victoire inattendue et historique des Bleus 3-0 contre le Brésil est scellée, une euphorie contagieuse s'empare de la France entière. La joie explose dans les rues et une foule en délire célèbre ces héros qui décrochent leurs premières étoiles. Aux alentours de 23h, Didier Deschamps, le capitaine de l'équipe de France, soulève le trophée tant convoité. La marche suprême est enfin atteinte pour le football français. Les heures qui suivent sont marquées par l'exaltation et des scènes inoubliables. Une marée humaine déferle sur Paris avec 1,5 million de personnes rassemblées sur les Champs-Élysées. La fête nationale prend de l'avance, 2 jours avant le 14 juillet officiel. Sur la célèbre avenue, la foule scande « Merci Zizou » et remercie son entraîneur très controversé par la presse française avant la Coupe du Monde, l'éternel Aimé Jacquet. La réussite d'une équipe cosmopolite est également célébrée, symbole d'une France black, blanc, beurre, vantée ensuite sur un plan plus politique.
Cette semaine, c'était la NAIDOC Week et cette année, eh bien, cette NAIDOC Week mettait l'accent sur la construction d'un héritage pour la prochaine génération. Lors de la cérémonie nationale de remise des prix NAIDOC à Perth, les pionniers aborigènes et insulaires du détroit de Torres ont été récompensés pour leur excellence dans leurs domaines respectifs. Reportage.
C'est NAIDOC Week en Australie et on vous propose ce dossier de SBS News. 10 aborigènes et insulaires du détroit de Torres ont été récompensés pour leur excellence dans leur domaine respectif lors de la cérémonie nationale de remise des prix NAIDOC Week à Perth. Cette cérémonie annuelle récompense les aborigènes et insulaires du détroit de Torres qui contribuent de manière exceptionnelle à l'amélioration de la vie des populations de leur communauté et au-delà. Des chants en Kalaakawaya, une langue des îles occidentales et centrales du détroit de Torres, inaugure la cérémonie de remise des prix de la semaine nationale NAIDOC de cette année. Ces prix annuels récompensent l'excellence autochtone et récompensent les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres dont le travail améliore la vie des autres au sein de leur communauté et au-delà. Le coprésident de la cérémonie, Stephen Sator, affirme que la célébration de 2025 est particulièrement importante car elle marque les 50 ans de la création de la semaine NAIDOC, destinée à honorer et à valoriser les voix, la culture et la résilience autochtone.
50 years, that's how long this movement has been growing, holding us and reminding this nation who we are. Tonight we honor that journey and celebrate the strength, the spirit and the stories that got us here.
Le prestigieux prix NAIDOC Personnalité de l'année récompense cette année le travail d'un homme, Jaru et Inji Bandi, dans le domaine de la santé autochtone.
Right, Mark, this is it.
All right, the big one, here we go.
The 2025 National NAIDOC Person of the Year is Dr. Daniel Hunt.
Dr. Hunt est médecin généraliste et dentiste. Il a largement travaillé au sein des organisations de santé contrôlées par la communauté aborigène. Daniel Hunt, un homme de Jaru et Inji Bandi, a reçu le prestigieux prix en reconnaissance de sa contribution majeure à la santé des aborigènes. Dr. Hunt est vice-président du comité consultatif sur les virus transmissibles par le sang et les infections sexuellement transmissibles en Australie occidentale. Et il a grandement contribué à la gestion de l'épidémie de syphilis en Australie. Il affirme que le thème de la semaine NAIDOC de cette année, la prochaine génération, force, vision et héritage, fait écho à sa propre vision du plaidoyer et de la manière dont le changement positif s'installe au fil du temps.
Legacy is the thing that I turn to most because it is what I look back at when I do any of the work I do or the advocacy that I have for Aboriginal health. Because it is those who have come before us, those trailblazers, who really have paved the way for how we conduct ourselves. One of our elders at the previous organisation I worked at, we used to speak about how much work there is to do in Aboriginal health care, but we also have to really look at the amazing work that we have done.
Il dit être heureux d'avoir été nommé personnalité de l'année et que c'est un honneur qu'il partage avec tous les autres nominés et lauréats.
We have to be absolutely proud of what has been accomplished and what all the amazing people have accomplished. I'm incredibly proud. The term black excellence can't be expressed enough when I see what is happening in Australia and in this room and the people who have won the awards. These awards aren't or any individual awards, you know, Hannah and Bianca, these are our awards because this is the work of everyone that has come before us.
Parmi les 9 autres lauréats, Michael Long, légende du footy australien, de l'AFL et influent défenseur des droits des autochtones, il a reçu le Lifetime Achievement Award. En 2004, cet homme d'origine Amadcherry et Murunungu a marché de Melbourne à Canberra pour appeler le gouvernement à agir sur les questions autochtones. Son leadership a inspiré la naissance de la Longue Marche, un mouvement national pour la réconciliation, l'éducation, l'action et l'unité. Michael Long affirme que sa carrière au sein de l'AFL lui a donné la force et l'opportunité qu'il est déterminé à transmettre aux autres.
I just want to say this game is given me so much, but hopefully I've given back and has created an opportunity and pathway for so many of our young men and women. This is an award I'll treasure.
Aux côtés de Daniel Hunt et de Michael Long, Rosalie Kickett a été honorée du titre Femme aînée de l'année. Ce prix récompense le travail de Madame Kickett en matière de soutien en santé mentale, de prévention de suicide et de sécurité des femmes, ainsi que son dévouement à l'autonomisation des hommes incarcérés des Premières Nations.
I'm truly honored and I'm truly humbled, deeply humbled. Honestly, I still am a little shocked for a little yoga like me. I never expected this. I never walked this path for recognition. I did it for my community here, for all my mort, my family, and for those who no longer have a voice.
C'est la perte de vie humaine dans sa propre communauté qui a motivé Madame Kickett à former d'autres personnes à la prévention du suicide.
After all the loss of suicides in my hometown, I thought I wanted to make a difference. So I went, and even though I, you know, mental health practitioner, I thought I needed to take this mental health first aid out into the communities.
Le prix de la jeunesse de cette année a été décerné à une autre femme engagée dans l'amélioration de la santé mentale des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, Annika Gosling, une jeune femme de Wajuk, Noongar, qui travaille comme psychologue dans les écoles. Daniel Ponta, 25 ans, a également été récompensé lors de la cérémonie, recevant le prix de la personnalité sportive pour ses performances. La joueuse de Maranungu et Danchamare a joué 2 fois dans une premiership de l'AFLW, le footy féminin, et affirme que son oncle co-lauréat du prix, Michael Long, a été une source d'inspiration.
I'm here tonight with my uncle Michael Long and the rest of my family, and to have someone like that a part of my family and to not turn out the way that I have, it would be crazy. He's done so much work for, you know, our community, and I grew up around that, so it's been instilled in me from a young age, and that's why I do the things that I do, and it's why I'm so passionate about giving back to community, because it's been around me my whole life.
Pour Natasha Wanganeen, finaliste du Creative Talent Award, le thème NAIDOC de cette année, La Prochaine Génération, Force, Vision et Héritage, est axée sur cette célébration de l'impact et du changement intergénérationnel.
A lot of trailblazers have made this happen for us over the years, so it's beautiful to see everybody in the next generation come up and just celebrate each other.
Ce dossier de Angelica Waite de SBS News a été présenté par Jean-Noël Ducasse de SBS French.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? T'as jamais vu une femme ? Regarde sous mon sang là.
La Grenade, Clara Luciani bien sûr. Fin de la première semaine du Tour de France que nous fait vivre au plus près notre collègue Christophe Mallet qui est sur place. Il a rencontré Bernard Thévenet, deux fois vainqueur du Tour de France. La première fois il y a 50 ans déjà, en 1975, quand la course s'est terminée sur les Champs-Élysées pour la première fois de son histoire.
Bernard Thévenet, 1975-2025, 50 ans de ce maillot jaune mythique sur les Champs-Élysées pour vous.
Oui, c'était une arrivée mythique, quoique on avait reconnu cette arrivée au mois de mai, et il m'était resté deux choses. La première, c'est que les Champs-Élysées, c'est beaucoup plus difficile que ce que l'on croit, parce qu'en voiture ça va facile, mais en vélo ça monte et il y a des pavés. La deuxième chose, c'est que c'était pas du tout courant à l'époque de finir comme ça en tournant en rond. Ça faisait bizarre de finir par un circuit.
Par un critérium.
Exact. Oui, je ne voulais pas dire ce mot-là, mais ça y est, c'est ça. Vous l'avez dit. Ça finissait comme un critérium. Ça paraissait un peu d'évalueur de Tour de France. Et puis,
Alors au sein du peloton, même les coureurs disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette fin ?
On s'interrogeait, c'est une façon bizarre, c'était tout nouveau, ça se faisait pas. Donc c'était une nouveauté, quand même, finir comme ça, en tournant en rond, c'est un peu bizarre. Comment on va faire la course ? Comment ça va faire la course ? Et finalement, quand on a vu l'engouement qu'il y avait, le monde qu'il y avait, il y avait 200-300 000 personnes peut-être. On a dit que c'était quand même pas mal, parce qu'au début c'était pour une année, hein. C'était pas prévu de continuer comme ça. Mais après, on a dit, ça serait quand même bien ça serait pas mal de recommencer, c'est pas mal. Puis finalement, ça a encore été une invention du Tour de France, puisque ça a été repris par les autres grands tours.
Alors on va se projeter aujourd'hui, enfin cette année surtout, le Tour de France, il retourne aux Champs-Élysées avec une petite nouveauté également, 50 ans après, l'addition de Montmartre. C'est quoi votre vision de ça ?
C'est vrai que ça peut être bien de changer. C'est une nouveauté à moitié, puisque les Jeux Olympiques sont déjà passés sur ce terrain-là. Donc on a déjà une expérience quand même de ce qui s'est passé pour les Jeux. C'est pas vraiment dans l'inconnu. Mais c'est sûr que ça va changer par rapport aux autres années. Hein. Les autres années, c'était la dernière étape. C'était tranquillou jusqu'au champ. Et ça partait tout doucement. Là, ça risque d'être un peu plus décousu.
Oui, tout à fait. Ouais. Et vous, alors 50 ans après cette victoire sur le Tour de France, ce maillot jaune, déjà, il est où ce maillot jaune chez vous ? Est-ce que vous l'avez toujours ? Il est encadré, il est au-dessus de la cheminée. Et puis, ça vous donne un anniversaire comme ça, ça vous donne un moment pour réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé depuis pour vous ?
Déjà, la première chose, c'est que quand j'ai gagné aux Champs-Élysées, je ne pensais jamais qu'on m'en parlerait 50 ans après. Hein. C'est vraiment une...
Il y a eu un peu un trou derrière.
Je ne m'attendais pas du tout à ça. La deuxième chose, c'est vrai que ça fait du bien. Bon, il y a 50 ans, donc, ça fait déjà un moment, mais finalement, ça ramène des souvenirs. Et puis, si on en parle encore 50 ans après, c'est que ça a marqué les gens. Donc, c'était quelque chose qui était assez extraordinaire, parce qu'on ne parle pas de tous les Tours de France comme ça. Donc, c'était un Tour de France qui était certainement épique, parce que les gens s'en rappellent. Vous savez, quand on est dans l'action, on ne ressent pas du tout la même chose. On est dans l'action, on est dans le Tour de France, on essaye de gagner le Tour de France, on est concentré sur le Tour de France, on ne voit pas trop ce qui se passait à côté.
Oui, tout à fait. Et alors, juste une dernière question pour vous. Vous avez couru avec Merckx, avec Hino, avec Anquetil. C'est des gens qui ont marqué le Tour de France, bien sûr. 5 Tours de France chacun. Quelqu'un comme Pogacar, C'est quoi votre vision sur lui aujourd'hui, sur peut-être le changement qu'il peut apporter dans le nouveau souffle dans le vélo?
Sur les coureurs que vous venez de citer, là, à mon avis, celui qui... Pogacar se rapproche le plus d'Eddy Merckx, je pense. Parce que, évidemment, ça a beaucoup changé. Eddy Merckx, il faisait 120 jours de course par an. Maintenant, un garçon comme Pogacar, je ne sais pas, il en fait peut-être 60.
Ouais.
Mais ça a beaucoup changé. Mais dans la mentalité, je trouve qu'il y a un peu la même mentalité. Quand il vient dans une course, c'est pour gagner. Il ne vient pas là pour s'amuser, il ne vient pas pour s'entraîner. Eddy Merckx, c'était pareil. Lui, quand il vient dans une course, c'était pour gagner. Hein. Et bien, Pogacar, il a un peu
c'était un vrai cannibale.
Il a un peu la même mentalité. Lui, quand il vient, c'est pour... Il y a la victoire l'intéresse. Par contre, il est dans une course, il paraît plus décontracté qu'Eddy, par exemple. Eddy est toujours un peu sur les nerfs. Mais bon, c'est aussi la nouvelle génération qui est comme ça. Hein, ça. C'est pour ça qu'on peut difficilement comparer des coureurs de maintenant par rapport à des coureurs d'il y a 50 ans, comme on peut difficilement comparer un jeune de 20 ans de maintenant comme un jeune qui avait 20 ans dans les années 60. Hein.
Mmh, ouais, c'est la même chose.
C'est la mentalité différente, la société a évolué, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a quand même certains traits de caractère qui sont un petit peu similaires.
D'accord, Bernard TV, profitez de cet anniversaire aussi pour vous. J'espère que vous allez avoir un super tour et que nous aussi on va avoir un super tour.
Bon, en tout cas, c'est bien parti pour avoir un super tour. Hein.
Corps malade et Kimber Rose qui chantent nos plus belles années. Rencontre avec Annabelle Lacroix, elle est commissaire d'exposition indépendante et chercheuse. Elle nous parle de la relation entre l'art et la nuit. Interview.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Nous sommes en ligne avec Annabelle Lacroix, commissaire d'exposition indépendante. Annabelle, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez sur de nombreux projets et événements, on va citer certains d'entre eux dans cette interview. Il y a par exemple Beaubourg la nuit ou encore Radio Insomnia. Mais avant, si vous pouvez vous présenter à nos auditeurs.
Je travaille donc comme commissaire d'exposition, critique d'art et enseignante à l'université de New South Wales, ici à Sydney. Donc je travaille sur des projets assez... différents de la radio, des expositions, mais aussi de l'écriture.
Oui, parce qu'on va parler de tout le côté artistique, mais à l'université, vous faites de la recherche, c'est ça?
Oui, je viens de terminer un doctorat en pratique curatoriale. Je m'intéresse à la programmation pour les publics dans les musées et comment le musée se transforme la nuit, comment l'espace sonore est activé par le public, par les artistes qui produisent des œuvres sonores, notamment.
Justement, ça fait le lien avec Beaubourg la nuit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Alors, ça faisait partie de ma recherche. J'ai fait un cas d'étude sur le centre Pompidou, qui est ouvert jusqu'à 22h depuis que le musée a été conçu et a ouvert dans les années 70. Et donc, pour moi, c'est vraiment intéressant de voir comment un musée a été pensé avec des horaires d'ouverture tardives pour accueillir le public, présenter tout un panel d'événements de cinéma, de performances, de discussions. C'est vraiment une histoire qui n'a pas été tellement explorée, puisque beaucoup de chercheurs se sont beaucoup intéressés aux expositions du Centre Pompidou, qui sont... importante et très riche, mais tout le côté programmation est moins exploré. Et donc j'ai pu mener des recherches dans les archives, notamment aussi avec le laboratoire d'histoire permanente du Centre Pompidou. Et ensemble, avec d'autres chercheurs, on a présenté ce travail lors de la Nuit européenne des musées l'année dernière et présenté cet événement Beaubourg la nuit pour... activer cette histoire au travers d'archives et avec des performances et inviter le public à être ensemble dans le hall du Centre Pompidou qu'on a plongé dans l'obscurité pour célébrer ces nuits du centre.
Vous avez plusieurs travaux qui tournent autour du milieu de la nuit, des horaires tardifs. On en parlait en introduction. Il y a également Radio Insomnia. C'est un projet que vous avez avec un artiste français, Nicolas Montgermont. C'est une invitation je lisais sur votre site, c'est une invitation à écouter avec l'insomnie plutôt que contre elle, par souci de productivité. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais en fait, c'est l'idée que l'éveil nocturne, l'insomnie, finalement, si on cesse de la voir comme quelque chose de subi, eh ben, on peut un peu activer cet éveil pour d'autres choses, comme l'écoute de la radio la nuit. C'est aussi un peu comme ça que la radio de nuit s'est développée, en fait, puisque au départ, la radio se terminait en fin de journée. Et reprenait le matin, et puis au fur et à mesure, avec notamment les autoradios dans les voitures et les camions, une communauté de nuit s'est développée. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'insomniaques, de personnes qui travaillent la nuit, les boulangers, etc. Il y avait tout voilà, une communauté de nuit. Et donc, voilà, c'est un peu l'idée aussi de politiser le sommeil. Au travers de mes recherches, j'ai découvert en fait que le sommeil est polyphasique. Donc, avant la révolution industrielle, on dormait en plusieurs phases. Et donc, le fait d'être éveillé la nuit, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Donc, l'idée avec Radio Insomnia, c'est un petit peu voilà ça, de réactiver cette écoute nocturne.
Je propose à nos auditeurs d'écouter le générique de Radio Insomnia. Et Annabelle, pourquoi avoir choisi de faire carrière en Australie? On entend par exemple votre projet avec Pompidou, c'était bien sûr en France. Est-ce que vous diriez qu'en Australie, il y a plus de créativité, d'opportunités, de liberté artistique qu'en France?
Bah, disons que c'est simplement un contexte très différent. En France, il y a un contexte européen particulier avec ses institutions artistiques. Et en Australie, pour moi, j'ai l'impression que la scène est tout à fait différente puisqu'elle est plutôt éclatée finalement avec beaucoup de centres qui sont gérés par des artistes, qu'on appelle les artist-run spaces, des centres indépendants. Il y a une sorte de côté collégial et collaboratif en fait dans la scène artistique australienne que j'apprécie. Après, je dirais pas qu'il y a plus ou moins de créativité d'un côté et de l'autre, mais plutôt peut-être plutôt une liberté de jouer un petit peu avec les normes et les limites. Ça, c'est aussi ce que j'apprécie. Souvent, les commissaires d'exposition en Australie sont aussi des artistes eux-mêmes. Il y a une certaine liberté et innovation dans ce sens-là pour faire des choses qui sont, voilà, peut-être un petit peu en dehors des clous.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos prochains projets?
Oui, alors je travaille en ce moment sur un projet avec le musée La Pérouse, notamment avec Nicolas Montgermont, qui est mon collaborateur sur Radio Insomnia, pour amener un groupe d'artistes qui travaillent sur le radio art, essayer de penser ce que veut dire la transmission radio, en fait, enfin, disons le mot de transmission et de réception sur la petite presqu'île de la Pérouse, où d'un côté est arrivé l'explorateur français et de l'autre côté est arrivé James Cook, donc l'explorateur anglais. Donc c'est un site de réception voilà, de la colonialité australienne. Et le musée était aussi en fait une des premières stations de télégraphe en Australie. Et donc du coup, voilà, je développe un projet qui va mettre en lumière un petit peu ces différents aspects de l'histoire et aussi penser à la transmission au sens de connaissances, de ce que les objets de la collection du musée peuvent nous dire, mais aussi la transmission avec l'oralité et toute la culture aborigène qui est voilà, très présente sur l'île et essayer de faire des ponts avec toute cette histoire.
Merci beaucoup, Annabelle.
Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire,
je le veux. Enfin, je commence à douter. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais.
Tout oublié, c'était Angèle, la chanteuse belge, sur les ondes de Radio SBS. Jusqu'au 20 juillet, le festival Illuminate Adélaïde illumine les rues d'Adélaïde, comme son nom l'indique. Françoise Wessot est une des directrices de la compagnie des Kidam. Elle nous parle de Fier à cheval, le spectacle itinérant mettant en scène des figures lumineuses ressemblant à des chevaux.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
En marge du festival Illuminate Adélaïde, j'ai le plaisir de recevoir Madame Françoise Wessot, une des directrices de la compagnie des Kidam, qui est une des compagnies les plus appréciées au festival. Françoise, bienvenue sur SBS French.
Je suis enchantée, merci de me recevoir.
Voilà, la compagnie des Kidam est de retour en Australie, cette fois-ci à Illuminate Adélaïde avec un spectacle spectaculaire, si je puis dire. Fier à cheval.
Oui, fier à cheval, il y a un petit jeu de mots. Fier et fer à cheval. Le fer à cheval, c'est la partie que l'on met sous le sabot. Et en même temps, fier à cheval, au début, on voit des personnages qui sont plutôt fiers et on ne sait pas vraiment en quoi est-ce qu'ils vont se transformer. Et donc voilà, il y a ce petit jeu de mots, cette petite nuance dans la langue française uniquement.
Fier à cheval, et il y a aussi ce que j'ai vu sur toutes les enseignes, fier à cheval s'écrit d'une façon assez particulière. Faute d'orthographe ou c'est voulu, c'est fait exprès pour l'écrire avec des lettres en majuscules et des minuscules.
Oui. En fait, le S de fier à cheval, c'est un petit peu le dessin, la ligne de nos chevaux que l'on peut retrouver donc quand ils sont gonflés. Et donc, c'était juste une petite nuance visuelle qui donne une petite originalité.
D'accord. Illuminate Adélaïde, c'est un festival connu chaque année pour des présentations brillantes célébrant l'art, la lumière, la musique et la technologie.
Eh bien, nous sommes dans le thème. Effectivement, nos chevaux, pour se gonfler et s'illuminer, nous avons de la technique, mais je ne vous en livrerai pas le secret. Nous sommes aussi dans la rue. C'est interactif avec le public, c'est-à-dire le public peut nous approcher, caresser les chevaux. Ils en oublient même que ce sont des chevaux en tissu. Voilà, la réalité rattrape un petit peu le rêve. Également, c'est poétique. Il n'y a pas de parole et chaque personne peut se créer sa propre histoire avec ce visuel que nous leur proposons. Ils peuvent également s'identifier au personnage de la femme des pistes que j'interprète ici à Adélaïde. Ce personnage vivant qui leur ressemble, qui peut être à leur image. Et ce petit personnage vit son petit déplacement dans Adélaïde avec sa horde de chevaux.
Est-ce que vous adaptez vos spectacles en fonction des conditions du jour où vous vous présentez? Comment est-ce que le cadre du festival influence vos performances?
Alors, vous avez complètement raison. Ce spectacle existe depuis 2014. Nous jouons à peu près une centaine de fois par an et c'est à chaque fois un spectacle différent. Ça, c'est la grande particularité de la rue. Quand nous jouons dans la rue, nous nous adaptons aux différents décors de la ville où nous nous trouvons. Donc, des places, des rues qui sont plus ou moins larges, des bâtiments que nous mettons en valeur ou les bâtiments nous mettent nous-mêmes en valeur. Et nous suivons au fil de ces décors de ville, nous adaptons nos chorégraphies, nos moments, nos images. Et pour nous, c'est du coup à chaque fois un nouveau spectacle.
Et quels sont les défis uniques liés à la présentation de ce spectacle de rue, notamment en termes de logistique, de sécurité et d'adaptation aux différents lieux? Parce que, bon, en France, ça, ce serait différent parce qu'on a aussi des législations qui divergent. En Australie, c'est très strict et très encadré. Comment est-ce que vous vous adaptez?
Alors là, je vous avoue que le festival Illuminate a vraiment fait un gros travail de préparation. Ça se fait pas en arrivant le jour même. Hein, il y a eu un long travail de préparation avec l'équipe du festival qui est extraordinaire. Nous jouons comme si nous étions en France. Enfin, il n'y a pas de grosse différence, je dirais, au niveau de l'organisation. Tout a été vraiment très bien travaillé en amont. Et surtout, le public est vraiment incroyable. Ils nous suivent, ils ont envie de jouer avec nous. Et nous utilisons les espaces que le festival a bien voulu nous mettre à disposition. Et pour nous, c'est vraiment idéal. Nous pouvons jouer avec d'autres éléments du festival. Nous jouons avec les bancs qui sont là tous les jours dans la rue, devant des bâtiments extraordinaires. Et de surcroît, la nuit, on emmène le public encore dans un autre rêve que si c'était la journée, puisque les chevaux peuvent s'illuminer, s'éteindre et s'allumer au bon vouloir des comédiens qui habitent les costumes.
Le spectacle tourne autour du cheval, le cheval qui est un des thèmes les plus explorés par Léonard de Vinci.
Oui.
Mais le cheval a aussi, c'est pas seulement l'animal comme tel, ça a beaucoup de signification, il a une signification différente selon des contextes, que ce soit comme animal de compagnie ou
ou symbole de liberté.
Est-ce que vous adaptez vos spectacles selon les lieux où vous vous présentez, et surtout dans un cadre comme celui de l'Australie où le cheval a une signification différente de ce qu'il pourrait avoir en France?
Effectivement, alors on ne joue pas qu'en France, on joue par le monde entier. Hein. Ailleurs, on est déjà allé au Japon, au Mexique, à travers le monde. Bon, déjà, nous adaptons au lieu. Il nous est arrivé de jouer vraiment dans des hippodromes. Il nous est arrivé de jouer dans des lieux où il y a des concours de chevaux. Il nous est arrivé de jouer pour des événements soit vraiment liés au cheval, soit complètement à part de cela. Et la force que nous avons, c'est que selon le lieu, le public se fait son propre ils ont adapté à cet endroit où, et donc leurs références, ils se la font eux-mêmes selon leur culture, leur éducation, et ça c'est la magie en fait. Nous n'avons pas forcément travaillé, même si peut-être ce petit personnage humain donc dont j'endosse le rôle au début du spectacle. C'est un petit peu ce petit Léonard de Vinci qui, avec sa plume, dessine, écrit, et puis commence à dessiner des silhouettes, et ces silhouettes apparaissent derrière lui. C'est comme s'il avait rêvé de dessiner des chevaux, et qu'ils apparaissent, pour de vrai derrière lui, pour prendre vie et le suivre dans cette cavalcade imaginaire.
Vous êtes l'une des directrices de la compagnie, vous avez joué un rôle important. Quelle a été la source d'inspiration et des créations de ce spectacle?
Alors ce spectacle est né d'une demande. Un jour, nous allons jouer en France dans un lieu où il y a beaucoup de chevaux, au bord de l'océan Atlantique ou de la mer du Nord. Et une programmatrice nous dit « Oh là là, je rêverais d'avoir des chevaux blancs et lumineux parce que nous jouions un autre spectacle là-bas. » Et elle avait vu notre univers. Et le directeur artistique passé, Jean-Baptiste Dupéret, qui était l'ancien directeur artistique, a dit « L'année prochaine, nous pourrons vous faire des chevaux. » Et les chevaux sont nés grâce à la plasticienne qui a travaillé, qui a élaboré, qui a créé ces chevaux. Puisque c'est une création originale, elle a dessiné, puis fait découper et enfin cousu ce tissu pour lui donner forme de façon harmonieuse. en termes de proportion, de hauteur. Et puis ensuite, Frédéric Grand a créé toute la technique à l'intérieur avec Bastien Rolly. Ils ont trouvé la façon de que tout cela soit confortable pour les comédiens qui habitent ces chevaux. Et ensuite, de créer les chorégraphies, les mouvements, les musiques. Tout cela, en fait, est un travail d'équipe. Mais c'était une commande au départ et c'est incroyable ce spectacle, l'impact qu'il peut avoir sur le public. On en a conscience tous les jours, à chaque fois que nous jouons le spectacle.
Mis à part la conception, tout ce qui est créatif, imaginaire et tout, vous jouez aussi dans ce spectacle. Quel rôle vous jouez ?
Je joue ce rôle, ce pourrait être ce petit Léonard de Vinci qui dessine ses chevaux avec sa plume et hop, ses chevaux apparaissent comme par magie. Voilà, chacun peut se faire sa propre histoire. Moi, c'est celle que je me raconte dans ma tête. On ne veut pas prendre le spectateur par la main en lui disant « c'est ça que tu dois voir, c'est ça que tu dois imaginer ». C'est arriver à faire rêver les petits comme les grands sur ce thème magique du cheval. On l'aime, le cheval, hein, vraiment. Peu importe les cultures, c'est vraiment un des animaux qui accompagne l'homme depuis tous les temps.
Ouais. Et vous vous êtes déjà produit ce week-end. Quel a été le retour du public ?
Oh, ils sont fous, ces Australiens. C'est génial. Ils sont à fond avec nous. Ils participent, on les surprend, ils nous surprennent, ils applaudissent à des moments improbables, ils nous suivent, ils jouent le jeu. Et c'est super, c'est génial.
Et après Illuminate Adelaide, quels sont les prochains projets ou les aspirations de la compagnie Kidam ? Est-ce qu'il y a une perspective de pouvoir l'amener dans notre ville d'Australie comme Sydney, Perth ou même Brisbane ? Au Melbourne.
Ce spectacle n'a pas encore joué dans d'autres villes d'Australie, mais nous aimerions vraiment pouvoir revenir et puis faire une tournée. Par contre, la compagnie, avec un spectacle précédent qui s'appelle et qui tourne encore Rêve d'Herbert, a déjà tourné à Perth, à Melbourne et à Canberra. Fier à cheval est déjà allé à Canberra, puisque j'étais également présente à ce moment-là, à Canberra. Mais oui, nous aimerions pouvoir revenir là. Derrière, quand nous revenons en France, une autre équipe part jouer avec un autre spectacle au Japon. Mais Fier à cheval sera également présent au Danemark pour une tournée d'une quinzaine de jours. Et puis aussi, nous avons quelques dates en France pour jouer Fier à cheval.
Et avant de nous quitter, y a-t-il un message particulier que vous souhaiteriez partager avec le public australien ?
Nous sommes ici, loin de chez nous, mais très très bien accueillis, non seulement par le festival, mais par le public que nous croisons. On est prêt à rencontrer des Australiens qui voudraient échanger avec nous autour de notre spectacle ou autour de la culture. C'est possible de rentrer en contact avec quelqu'un du festival pour répondre à d'autres questions. Mais surtout, venez nous voir. On joue les vendredis, les samedis et le dimanche en une seule fois. Soyez au rendez-vous et on espère pouvoir faire rêver encore le public autour de ce festival. Venez nombreux voir le spectacle et nous suivre dans notre cavalcade incroyable.
Nous passerons le message. Françoise Wessau, de la compagnie des Kidam, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous présenter Fier à cheval de votre compagnie.
Je vous remercie, c'était très agréable et public venez nombreux.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Sur la terre où tu voudras, sur la mer au bout d'un détroit, voir la lumière qui change, l'horizon qui se mélange, les océans qui s'échangent. On n'existe pas, on est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi.
Le duo Gaëtan Roussel et Adeline Loveau qui ensemble chantent « Crois-moi ». C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un merveilleux samedi après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.